BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Les pros des cryptos, comme chaque vendredi, à 16h35 jusqu'à 17h, avec trois invités aujourd'hui avec nous en plateau. Donc Xavier Fenot qui est avec nous au téléphone, qui est toujours là chez Interactive Trading. Et puis en plateau, on a le bonheur d'accueillir Owen Simonin. Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Asher. Et puis avec nous également, Alexandre Stachenko. Vous êtes le cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain chez Crypto de KPMG. Beaucoup d'actualités hein, quand même cette semaine autour des crypto-monnaies. Quelques frayeurs aussi peut-être avec cette fameuse loi MiCA, hein, la loi MiCA qui a été rejetée au Parlement européen. C'était attendu quand même ou pas? Et puis surtout, est-ce qu'on peut revenir en deux, trois mots sur cette loi MiCA pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Oula, de quoi ils parlent ?»
Alors, la loi en tant que telle, elle a été adoptée. Il y a un amendement qui n'est pas passé, mais on va dans la suite du processus, on a évidemment d'autres choses à vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Elle est très importante parce que l'objectif de cette loi, c'est d'harmoniser le cadre au niveau européen pour tous les acteurs qui voudraient traiter le sujet crypto, fournir des services, fournir de la conservation de crypto, fournir des services de trading, des paiements, peu importe. Tous ces gens-là sont concernés par une harmonisation au niveau européen des règles qui permettent d'opérer dans l'espace européen. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette loi. Elle fait 160 pages, donc il y a un certain nombre d'articles. Il y a une partie substantielle qui est, j'allais dire, souhaitable, puisqu'elle encadre, par exemple, les gens qui vont créer des cryptos, qui vont créer des jetons, qui vont faire des levées de fonds à partir de ces choses-là, et qui vont permettre de limiter tout ce qui est manipulation de marché, conflit d'intérêts, délit d'initié et autres joyeuseries dont on n'a pas forcément besoin pour un marché qui est sain. Donc, toutes ces dispositions-là, on les lit, on est... Globalement, c'est difficile d'être contre, parce que évidemment, elles vont permettre de protéger les citoyens européens. Mais en réalité, quand on prend un peu de recul, tout ce qui est création de crypto, ICO, nouveaux jetons, etc., en réalité, c'est une partie assez marginale du marché. C'est toujours les mêmes chiffres, Bitcoin tout seul, c'est déjà presque 50% de la capitalisation totale du marché, donc ça n'est pas concerné par tout cela. Mais ça, c'est une première chose. Ensuite, dans les points un peu plus critiquables, il y en a au moins trois. Il y a l'encadrement des stablecoins, il y a l'encadrement des NFT, et il y a toute une partie qui a beaucoup fait jaser sur la preuve de travail, qui est l'algorithme qui permet à différentes blockchains de fonctionner. Alors sur le premier point des stablecoins, c'est pareil, c'est en soi souhaitable d'encadrer ce genre d'actifs, puisqu'ils vont être amenés à être beaucoup utilisés dans la finance traditionnelle, pour faire des paiements, pour faire des transferts à l'international, etc. Et donc on veut une forme de sécurité, pareil, pour les utilisateurs, pour les citoyens, pour les entreprises. La problématique sur le parti stablecoin, c'est plus le timing, c'est-à-dire que en réalité, c'est une réglementation qui va concerner personne, puisque les stablecoins sont à 99% backés par du dollar, ils sont aux États-Unis, ils sont créés par des acteurs américains. Donc c'est une réglementation qui va être jolie pour espérer éventuellement créer un acteur qui pourra faire quelque chose de plus compétitif, mais qui va restreindre la création de ces stablecoins à des entités qui seront régulées, qui devront aller chercher une licence, etc., etc. Donc il y a une question de timing qu'on peut critiquer là-dessus. Sur les NFT, il y a déjà beaucoup plus de choses à critiquer, parce que ce que le Parlement européen, en tout cas via cette loi, a décidé de faire, c'est d'adopter une approche qui est technologique, qui est un peu en rupture d'un principe un peu important, qui est le principe de neutralité technologique, c'est-à-dire que d'un point de vue législatif, normalement, le citoyen est censé être mangé à la même sauce, peu importe le biais technologique, c'est-à-dire que si vous avez un NFT qui représente une œuvre d'art versus si vous avez un bout de papier qui représente une œuvre d'art, vous êtes censé être traité de la même façon. Or, ce que fait cette loi, c'est qu'elle introduit une rupture de ce principe-là, puisque comme il y a un biais technologique et qu'on va réguler non pas un usage, mais une techno, on se retrouve à mettre dans le même panier juridique une action d'entreprise tokenisée, une épée dans un jeu vidéo, une œuvre d'art, un bien immobilier, etc., etc. Puisque les NFT sont protéiformes et on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Donc cette approche-là est très 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 critiquable parce que concrètement, si on caricature un peu mais pas trop, on va se retrouver à si on est un éditeur de jeux vidéo qui crée une épée dans un jeu, va falloir aller chercher un prospectus, aller voir les autorités des marchés financiers pour avoir le droit de créer une épée, ça devient ridicule. Donc d'une certaine façon, cette approche elle est pas forcément pertinente et elle rompt le principe de neutralité technologique. C'est assez inquiétant et ça ne laisse pas la place aux usages de se développer. Et la troisième chose, et après je pourrais passer la balle à Owen, qui a fait beaucoup parler parce que c'était capital en soi, si jamais ça passait, c'était des conséquences extrêmement importantes, c'est qu'il y a eu tout un débat sur l'enjeu des algorithmes de consensus autour des blockchains. Donc on sait que l'algorithme preuve de travail, qui est celui utilisé très très largement hein, par 80% du marché de manière générale, est un algorithme qui a mauvaise presse pour plein de raisons, et notamment on se focalise sur sa consommation d'énergie. Et donc on a, de manière un peu lunaire, quand on lit cette proposition de loi, ces 160 pages, j'ai fait tout un thread Twitter là-dessus pour ceux qui veulent aller plus d'informations, mais on se rend compte que les sources utilisées par les parlementaires sont des sources très largement critiquables. C'est des blogs personnels de gens qui n'ont aucune expertise sur le sujet. Et sur la base de ces sources, eh ben en fait, on était en train de faire une réglementation qui disait bah, toutes ces choses-là, Bitcoin, Ethereum, tout ça, on n'a plus le droit d'y toucher en Europe. Donc ça, c'était effectivement assez grave. Ça a été réintroduit au dernier moment dans le texte par, je crois, les Verts européens et les SND. Il y a peut-être un troisième parti extrême-gauche, je crois, de mémoire, qui ont remis cet amendement-là. Et heureusement, lui, il y a eu mobilisation de beaucoup de gens, n'a pas été effectivement voté dans le texte. Il a été sorti pour en préférer un autre amendement qui, globalement, fait quelque chose de très européen, à savoir, on verra plus tard. Et donc, ça a été remis à ce qu'on appelle la taxonomie européenne, c'est-à-dire, on va faire un truc dédié pour dire, est-ce que c'est vert ou pas. Donc, c'est un relief, on va dire, on respire un petit peu, parce que si cette chose passait, c'était une forme de cataclysme en Europe, mais on n'est pas encore complètement tiré d'affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière qui vont se passer.
Une sorte de cataclysme, Owen, ça aurait pu être la fin des cryptos si cet amendement était passé ?
Alors, s'il était passé tout de suite, non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point très important. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un petit peu différent. Généralement, on n'a pas l'habitude sur cette émission d'autant zoomer sur un point, mais là, c'était vraiment critique. Et ce genre de discussions sont les plus importantes si on veut construire un écosystème important et durable en Europe pour les crypto-monnaies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, même si c'était passé, l'Union européenne prend des décisions avec le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. Chacun a sa propre interprétation du texte MiCA. Et si tout le monde a trouvé sa propre interprétation, ensuite, il y a un trilogue qui commence, et s'ils sont tous d'accord à ce moment-là, ils peuvent faire une proposition, la proposition de texte MiCA, qui ensuite va être adoptée par la plupart des pays ou non. Encore une fois, chaque pays a fait sa propre régulation. À partir du moment où plein de pays ont régulé pour essayer de développer les crypto-monnaies, si l'Union européenne propose, et son job c'est de proposer un consensus qui convienne à tous les pays européens, s'ils proposent quelque chose qui ne convient pas à la majorité des pays européens, très compliqué de l'appliquer. Et à ce moment-là, beaucoup de pays vont plutôt annoncer à leurs entreprises qu'il va falloir se réguler en fonction des lois de chaque pays, plutôt que de respecter une régulation d'harmonisation comme celle de MiCA. Donc il y avait des solutions, et quoi qu'il arrive, rien ne nous disait que le Conseil européen et la Commission européenne allaient valider la proposition du Parlement européen, et il y aurait probablement eu un blocage dans ce fameux trilogue. Quoi qu'il en soit, et c'est pour ça que c'est aussi important de zoomer dessus aujourd'hui, il faut que les gens restent sur le qui-vive, il faut que les gens restent concentrés, et il faut que les gens suivent ces propositions qui sont faites. Parce que à la base, il ne devait pas y avoir cette proposition sur le proof of work, par exemple. Elle a été retirée et à la dernière minute, elle a été reproposée dans le texte. Et puis même nous, alors que c'est notre job de suivre, on ne savait pas. C'était retiré, c'était pas retiré, ça va être voté, est-ce que c'est grave ou pas ? Et donc, il faut suivre vraiment ça, parce que c'est ces quelques petites décisions qui vont en réalité définir notre métier sur les 5, 3, 10, 15 prochaines années, j'en sais rien.
Et c'est l'intérêt aussi, pour compléter, c'est l'intérêt aussi pour l'industrie française, et c'est quelque chose que je pense que certains pays européens nous envient, c'est qu'on a un écosystème qui est assez structuré. On a l'association ADAN, qui est donc l'association des professionnels du secteur, qui joue le rôle de, on va dire, émulation au sein de l'écosystème, de mutualisation de compétences, de discussion avec le régulateur européen et de lobbying de manière générale. Et tout ça, il y a dans plein d'autres pays européens, l'écosystème n'est pas aussi structuré, il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas comment le faire. Nous, on a la chance d'avoir cette association-là, et donc c'est assez intéressant de justement saluer le travail de la DAN et de Faustine sur ce sujet.
Alors là, à l'heure où on se parle, on a un Bitcoin qui est à 40 825 $. On va rejoindre depuis Interactive donc Xavier Feneau. Xavier, comment a réagi le Bitcoin là, ces derniers jours? En début de semaine, on était aux alentours des 37 000, hein, c'est bien ça, hein?
Oui, bah, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que cette loi aurait pu effectivement provoquer un cataclysme, entre guillemets, comme vient de l'expliquer justement Owen Alexandre, mais en fait, sur le marché, il n'y a eu absolument aucune réaction. Avant, pendant, après. C'était assez étonnant, à tel point d'ailleurs qu'un tweet en fait d'Elon Musk, on a l'impression qu'il a plus d'impact sur le marché que cette loi. Donc, moi, j'ai été quand même assez agréablement surpris, même si je fais partie effectivement des optimistes depuis maintenant quelques semaines, du caractère un peu hermétique du Bitcoin. Déjà, depuis ces dernières semaines, on le savait par rapport aux marchés traditionnels qui sont très volatiles déjà, ils se liaient très bien, comme l'ensemble du marché des crypto-monnaies d'ailleurs, et encore plus, d'autant plus justement avec cette loi MiCA où il a finalement pas forcément été inquiété. Alors aujourd'hui et depuis finalement deux mois, hein, de manière générale, que ça soit sur le Bitcoin ou sur l'ensemble des cryptos, on a une neutralisation en fait de tendance, c'est-à-dire pour simplifier, ça bouge presque plus. Alors on a des décalages ici et là de 10%, mais 10% sur le marché des cryptos, c'est l'équivalent de 1% sur le marché des traditionnels. C'est rien. Donc en dessous, vous l'avez dit, effectivement, on a fait 37 000 $. En bas, la grosse zone à ne pas rompre, c'est 35 000 $, les plus bas annuels. Et au-dessus de la tête, le plafond, c'est 45 000 $. Donc pour réveiller le marché, qui est endormi depuis maintenant quelques temps, eh bien, il va nous falloir une rupture, une bougie impulsive haussière, peut-être passer cette période bien évidemment anxiogène, ces différents éléments et cette actualité qu'on a autour des cryptos, pour redonner un peu l'intérêt au marché, parce que dans cette période de calme, un peu d'incertitude, on a eu un rapport en fait de CoinShares sur le marché. Donc la semaine passée, on a eu quand même 110 millions de dollars de flux sortants sur le marché des cryptos. Alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence de cette léthargie? Je ne sais pas. Mais oui, effectivement, le Bitcoin est assez hermétique aux mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est un premier bon signe. Mais pour la suite, on doit encore retourner cette psychologie, recréer de l'intérêt qui passera du coup par une sortie de cette neutralisation par le haut, donc au-dessus des 44 000, 45 000 dollars. Donc pour le moment, effectivement, patience. En tout cas, pour le moment, les grosses mains ne lâchent pas, ne paniquent pas malgré l'actualité. Donc calmement optimiste, pour le moment, je reste.
Pour compléter, il n'y a pas de panique, hein, c'est ce que disait à l'instant Xavier, il n'y a pas de panique sur les crypto-monnaies, Alexandre.
Ben non, parce que alors ce que disait très justement Xavier, c'est qu'effectivement les marchés sont fichus un peu d'une certaine façon, parce que la conclusion qu'il faut avoir du côté européen, c'est que en réalité, si Mika en l'état passait, notamment avec l'interdiction, l'interdiction qui ne disait pas son nom, parce que beaucoup de gens ont aussi commencé à dire non, c'était pas une interdiction, c'était juste une restriction, de, je sais pas quoi. Si cette interdiction elle passait, en réalité, ça voulait dire que l'Europe se tirait une balle dans le pied, mais le Bitcoin continuait sa vie tranquillement. Il n'y avait pas de souci pour lui. Il continue d'être échangé aux États-Unis. Il y a eu l'executive order de Joe Biden il n'y a pas longtemps qui ne disait rien d'autre que c'est important comme technologie, il faut qu'on y aille. L'Ukraine, puisque c'est dans l'actualité, on a donné un cadre légal. Il y a d'autres pays dans le monde qui s'y intéressent. Donc le Bitcoin continuera, et l'Ether aussi, et probablement les autres cryptos, continueront leur bonhomme de chemin, Europe ou pas Europe, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus dramatique que cette proposition de réglementation, elle est très importante, parce qu'elle va concerner tous les acteurs européens, et que potentiellement il s'agit de se tirer une balle dans le pied ou dans la tête, peu importe comment on le voit, selon l'ampleur de ce texte et ce qui va en advenir. Mais le Bitcoin, lui, s'en fiche un peu, d'une certaine façon.
Alexandre, merci. Je voulais dire Xavier, voilà, pour être honnête avec vous. Xavier, vous souhaitez compléter quand même, parce qu'on, là, on parle du Bitcoin principalement. Est-ce que sur les autres crypto-monnaies, il y a peut-être eu plus de volatilité, ou est-ce qu'au final, eh bien, comme le Bitcoin, il n'y a pas eu trop de mouvement là, ces dernières heures par rapport à ça?
Par rapport à ça, ces dernières heures, pas grand-chose. Et depuis, ça fait un petit moment. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on s'en souvient peut-être pas, mais c'était pas l'ordre en forme quand même, le Bitcoin, en fin d'année dernière. Hein, il avait commencé à baisser fin novembre. Le numéro 2, l'Ethereum, par exemple, lui avait commencé sa glissade plutôt fin décembre. Donc, aujourd'hui, si je prends la performance des 50 plus grosses capitalisations depuis 30 jours, donc l'ensemble des cryptos, hein, les 50 plus grosses, le Bitcoin est autour de la 10e place. Alors, c'est pas une performance positive, on va dire que c'est l'une des performances les moins négatives. Alors, ça joue à pas grand-chose, hein, parce que la volatilité est vraiment écrasée ces derniers temps. Donc, c'est plutôt lui, finalement, qui essaye de tirer vers le haut les autres. Donc, d'une manière générale, oui, la situation est globalement similaire. Si on prend l'évolution de la capitalisation totale, donc l'ensemble des cryptos réunis, et qu'on retire le Bitcoin et l'Ethereum, bah, en fait, on est exactement au même point, c'est-à-dire au milieu d'un range, donc au milieu de deux bornes d'un range depuis deux mois. Un plancher en dessous, un plafond au-dessus, et on n'en sort pas. Donc, comme toujours, on a des faibles qui s'en sortent plus mal, d'autres qui prennent le relais, et inversement, en fait, il y a une sorte de relais qui est en train de s'opérer. Donc, dernièrement, on en avait parlé dans cette émission il y a deux semaines, Rune, par exemple, de la blockchain Torchain, qui a pris 50% en une semaine, quand même. Ou alors, on a Waze, qui continue de progresser 20% sur la semaine, après avoir été multiplié par 3 depuis fin février. Donc, oui, effectivement, la situation du Bitcoin reflète l'ensemble du marché, à quelques exceptions près. Et, pour être tout à fait honnête, c'est franchement pas évident en ce moment de créer de la surperformance par rapport au marché dans son ensemble. Donc, pour le moment, effectivement, patience. Les voyants sont aujourd'hui légèrement verts.
Merci Xavier Fenot, qui était donc avec nous depuis Interactive Trading. L'autre actualité de la semaine, c'est aussi cette conférence qui s'est tenue à Bruxelles, Blockchain Conference, hein, c'était mardi soir, avec la participation du député de Paris, député La République En Marche, Pierre Person, qui disait « Les banques d'aujourd'hui ne sont pas les banques de demain ». Est-ce qu'aujourd'hui, les banques, elles risquent de disparition? Enfin, la question est très large, hein, très grande. Hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre?
Moi, je suis assez d'accord avec le député Pierre Person. Et ça me semble d'ailleurs une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un concurrent direct d'une banque, on va penser à Coinbase, on va penser à Kraken, on va penser à Binance, on va passer à des acteurs qui sont au départ pas forcément dans le milieu bancaire. Aujourd'hui, les banques continuent d'être d'une certaine façon protégées par leur statut. la réglementation, l'encadrement, les barrières à l'entrée, leurs privilèges monétaires, etc., etc. Mais on a l'irruption sur le marché d'acteurs qui font plus de marge, qui font plus de volume, qui ont plus d'utilisateurs, qui s'adressent à des jeunes. C'est l'étude qu'on a faite en début d'année, l'a montré. Il y a une surreprésentation énorme des jeunes urbains, CSP+, etc., dans les possesseurs de crypto-monnaies. Donc, ces gens-là sont des gens qui sont en train de partir de chez les banques. Et si les banques ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de perdre une génération de clients, c'est probable qu'elles y survivent difficilement. Et on avait déjà évoqué ce sujet dans une précédente émission, mais il y a eu un premier symptôme en début d'année qui était très intéressant à suivre, c'est que pour la première fois, un acteur crypto avait racheté une banque dans ce sens-là et non pas dans le sens inverse. Donc ça avait lieu en Allemagne, où une banque allemande avait donc été rachetée par un acteur crypto. Donc oui, il y a un risque qu'elle disparaisse. Après, si on a un point de vue un peu plus macro, je pense que elles ont évidemment plein d'autres sujets sur la table, les banques qui ne sont pas que les cryptos, pour plusieurs raisons de type macroéconomique, environnement économique, etc., elles peuvent avoir du souci à se faire en général. Ce n'est pas que la crypto, mais effectivement la crypto vient leur prendre leur clientèle, vient leur prendre leur marché, propose des nouveaux actifs qui sont plus efficaces, qui permettent de faire des choses qu'elles ne font pas, etc., etc. Donc il y a un gros risque pour les acteurs bancaires, effectivement. Maintenant, c'est aussi une opportunité, comme à chacun, je termine avec ça, mais de la même façon qu'on avait vu dans les années 90, je dis toujours la même chose, mais selon la philosophie d'Internet, on est censé tous avoir notre serveur SMTP et s'envoyer des mails. Personne ne le fait. On est tous chez un GAFA, malheureusement, en règle générale, ou deux, trois autres prestataires de services pour les emails. Ce sera pareil, très probablement, pour les acteurs financiers. On va voir des nouveaux émerger et on verra des anciens qui auront su s'adapter et proposer des services crypto, tout simplement.
Après, ils ne font pas forcément le même métier. Hein. Il y a des banques de détail.
Bien sûr.
Voilà, avec les prêts et compagnie. Owen, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Le truc qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un principe fondamental qui est remis en cause et qui gêne les banques. Et il y a quand même la plupart des banques qui sont en train de se positionner. Mais c'est comme si publiquement elles ne pouvaient pas. Et puis bon, pareil, hein, depuis qu'en France on a la régulation PSAN, donc depuis qu'il y a un cadre légal qui permet et qui autorise les entreprises à exercer dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a jamais eu autant de comptes supprimés. Les entrepreneurs crypto, beaucoup fuient le pays, non pas pour sa régulation, non pas pour sa fiscalité, non pas pour beaucoup de choses, mais uniquement parce que en France, essayer d'avoir une banque qui tolère qu'on travaille dans la crypto-monnaie, c'est dur, c'est rude, et la plupart des gens ont même peur d'être régulés, ce qui est quelque chose de très dur, parce que quand on est régulé, les banques le voient et elles coupent les comptes. C'est quelque chose de complètement fou, et on arrive dans une position où ça devient frustrant pour les entrepreneurs, et il y en a qui partent parce que ça devient dur d'exister et de survivre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines banques ne peuvent pas l'annoncer publiquement, mais se préparent quand même. Parce que tout part d'un point très important, la demande. Si les gens veulent de la crypto-monnaie, les banques devront servir des produits crypto. Et si c'est pas maintenant, il y a des établissements bancaires qui prendront le devant parce qu'ils le font déjà. Que ce soit parce qu'ils sont en train de proposer des solutions, que ce soit parce qu'ils mettent la main sur l'épaule d'entrepreneurs en disant « Écoutez, publiquement, on peut pas l'annoncer, mais on aimerait pouvoir préempter sur une prochaine levée. » Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, si un jour il y a une vraie demande qui vient du marché, être capable de tout de suite la saisir. Parce qu'à un moment, il y a une ou deux banques qui publiquement vont prendre une grosse position sur la crypto-monnaie, et à ce moment-là, toutes ces personnes qui étaient sur un consensus et qui s'étaient bien mis d'accord pour ne pas ouvrir ce marché pour ne pas le laisser exister, vont très vite se rendre compte que c'est maintenant, c'est tout de suite, on a très peu de temps pour capter ce marché, parce que les 2-3 banques qui se sont positionnées avant les autres sont des banques qui se seront ouvertes et qui auront pérennisé un marché pour les années à venir.
On l'a vu avec les ETF notamment, les produits indiciels qui sont arrivés sur...
Et des fois, on l'a également vu sur plein de blocages, parce qu'il y a des produits indiciels, mais il y a encore quand même beaucoup de produits qui sont refusés. Pourquoi ? Ils sont refusés. Pour l'instant, ils sont refusés. Pourtant, ils sont conformes. Oui, mais... Ah, ils sont refusés encore, mais ça dépend. Ça, c'est encore une question de régulateur et c'est encore une question de pays. C'est notamment la SEC, c'est les États-Unis. Enfin, il y a différents marchés et donc tous les régulateurs ne fonctionnent pas pareil. Et pour l'instant, c'est pas encore totalement unilatéral. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais dès que l'Europe aura régulé, dès que les États-Unis aura donné une position ferme, dès que la plupart des banques de ce monde vont prendre position, les 2-3 consensus qui étaient contre l'arrivée de cette technologie pour des raisons évidentes de remise en cause de privilèges actuels, va y avoir deux types d'acteurs. Ceux qui ne veulent pas évoluer et eux sont peut-être menacés. Et la réalité des vrais gros acteurs bancaires qui maîtrisent la finance et qui sont là depuis longtemps, l'évolution ça fait également partie de leur gène et il y en a quelques-uns qui vont et qui ont déjà pris la tangente, que ce soit officiel ou que ce soit encore officieux, des petits papiers et des groupes de développement en interne de certaines banques.
Alexandre, vous qui êtes chez KPMG, vous voyez des entreprises qui veulent se faire financer et qui, bah, malheureusement, rencontrent des difficultés par rapport à ça.
Oui, même pas de financement. Là, j'ai eu, alors, c'est pas forcément avec le statut chez KPMG, mais j'ai eu une anecdote récemment. J'ai discuté avec un gestionnaire d'actifs qui est donc licencié, qui a une licence officielle de gestion d'actifs, qui est tout à fait officielle à l'AMF, etc., qui m'a raconté que lorsqu'il a dialogué avec l'AMF pour dire maintenant je veux gérer des cryptos, est-ce que j'ai besoin de la licence PSAN, l'AMF lui a dit bah PSAN, en réalité tu as une licence qui est supérieure parce que tu fais de la gestion d'actifs, donc tu n'as pas besoin, même si tu peux le prendre pour faire de rassurer tes clients sur le côté de la crypto. Mais c'est surtout que quand lui est allé voir son partenaire bancaire lui a dit non pas le PSAN ce serait cool parce que ça me rassurait, il lui a dit si tu prends le PSAN je ferme ton compte. Donc c'est ça la réalité du marché, au-delà de la théorie, où, parce que le PSAN au départ, quand même, rappelons-le, il a été fait parce qu'il y avait une absence de consensus entre l'industrie bancaire et les entrepreneurs crypto qui n'arrivaient pas à ouvrir de compte. Donc le consensus qui a été trouvé, c'est on fait une loi pour déporter la responsabilité d'une certaine façon vers le régulateur, et donc les banques pourront avoir les mains propres et dire j'ouvre un compte à des gens qui sont régulés. En réalité, on l'a constaté depuis plusieurs années, les entreprises, comme le dit Owen, se font fermer des comptes. On a des gens qui se font menacer de fermer de comptes s'ils prennent ce statut qui est pourtant régulé. Donc ça, c'est la réalité de ce qui se passe et c'est extrêmement inquiétant. Et à l'inverse, nous, ce qu'on constate chez KPMG quand on discute avec des partenaires bancaires, parce que évidemment, ça va surprendre personne, on passe notre journée à discuter avec des partenaires bancaires, on a en règle générale, individuellement et même à des niveaux stratégiques, tous ces acteurs bancaires qui nous disent « Écoutez, si vous avez des entrepreneurs qui veulent ouvrir des comptes, passez-les-moi, je les mets en liste. Nous, on a envie d'ouvrir ces comptes-là, mais aujourd'hui, on ne peut pas. »
C'est de la préparation de starting.
Tout le monde se prépare.
Ils savent très bien qu'à un moment, quand il y en a un qui va partir, les autres vont suivre derrière. Et même, hein, je le vois d'un point de vue entrepreneurial. Oui, alors pour l'instant, on s'intéresse pas, mais on aimerait vous parler tous les mois, parce que si un jour vous faites une levée et tout, le jour où on s'est intéressé par une levée, non, mais alors là, on peut pas, mais on aimerait bien pouvoir, ne serait-ce qu'être au courant, histoire de pas rater le train. Si à un moment, ça devient, comment ça, si à un moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous dites pas? Il est où le verrou qu'on voit pas? Le verrou, c'est que, bah, pour l'instant, il y a une force qui fait que ça n'arrange pas. Et à un moment, il y en a un qui va prendre la position. Et ils sont déjà plusieurs à le faire, même si ça reste officieux, même si ça reste discret. Et au moment où va y avoir une ouverture publique, et pour le coup, c'est ce qu'encourage l'autorité des marchés financiers, les régulateurs français qui, pour le coup, demandent aux entreprises, notamment les entreprises de paiement, hein, des entreprises et des géants comme Stripe, qui se sont fait encourager par les régulateurs à travailler main dans la main avec les PSAN. On crée un régime, on le régule, c'est pour qu'on puisse travailler avec ces acteurs. Eh bien, c'est quand même beau de le voir, parce que je suis certain que c'est la demande qui triomphera au bout. Et naturellement, si tout le monde veut utiliser des services crypto, il y a des gens qui en proposeront.
Merci messieurs. On est au bout, je suis désolé, on pourra en parler pendant des heures, mais le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup,
merci.
En tout cas,
merci
d'être venu en plateau. Owen Simonin, donc alias Asher, on vous retrouve notamment sur votre chaîne YouTube. Et puis Alexandre Slashenko, qui était également avec nous en plateau, cofondateur de Blockchain Partner et directeur de Blockchain et Crypto chez KPMG. Et puis on remercie bien sûr Xavier Feneau, qui était avec nous par téléphone tout à l'heure chez Interactive Trading. 16h57, dans un instant, on se retrouve après une courte pause. Ça sera le club. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.